Alors, si vous voulez vous lever, on va lire le chapitre 48 au complet. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, « Voici, ton père est malade. » Il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. On avertit Jacob et on lui dit, « Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. » Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, « Je te rendrai fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée, vers toi en Égypte, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leur frère dans leur héritage. À mon retour de Paddan, Rachel mourut en route auprès de moi, dans le pays des Canaan, à quelque distance d'Ephrata, et c'est là que je l'ai enterrée, sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Israël regarda les fils de Joseph et dit, « Qui sont ceux-ci? » Et Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit, « Fais-les, je te prie, approcher de moi, pour que je les bénisse. » Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Ils ne pouvaient plus voir. Joseph les fit approcher de lui, et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. » Joseph les retira des genoux de son père, et ils se prosternèrent en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche, à la droite d'Israël, et les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, « Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. » Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père, pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Il les bénit ce jour-là et dit, « C'est par toi qu'Israël bénira, en disant, « Que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. » Et il mit Éphraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph, « Voici, je vais mourir. Mais Dieu sera avec vous, et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne, de plus qu'à tes frères, une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. » Vous asseoir. Alors, on avait commencé à exposer le texte la semaine dernière. On avait fait les 7 premiers versets. Et cette semaine, je pense qu'on devrait terminer le chapitre complet. Je voulais juste vous dire, en passant, que je veux diviser le chapitre 49 en deux parties et faire le chapitre 50 après. Donc, ça veut dire qu'il nous reste 3 semaines. Et ce matin, je regardais le calendrier, et s'il nous reste 3 semaines, donc ça nous mettrait le 29 septembre, on commencerait notre nouvelle série sur l'Apocalypse. Donc, la date est pas mal fixée. Le 29 septembre, on commencerait notre série. Alors, je vous demande de continuer à prier pour le succès de cela, que le Dieu nous éclaire. C'est un livre qui est reconnu comme étant difficile, mais on a besoin de l'éclairage du Seigneur. Mais si on prie beaucoup comme groupe, le Seigneur nous écoute et il comprend qu'on veut comprendre. Et il exauce. Ce genre de prière-là, il les exauce. Et en même temps, de continuer à prier pour la nouvelle série qu'on va commencer le mercredi soir. On achève les disciplines spirituelles du mercredi soir. D'ici quelques semaines, on devra avoir terminé. Et on va commencer la nouvelle série sur les attributs de Dieu dont je vous ai parlé la semaine dernière. Et c'est extrêmement important, les attributs du Seigneur, parce que plus on va connaître la grandeur de notre Dieu, plus on va connaître la profondeur de notre corruption, plus on va être porté à ne pas se fier sur nous-mêmes et à vouloir dépendre de Dieu de plus en plus. Ceci étant dit, on continue ce qu'on avait commencé la semaine dernière. Donc, le titre que j'avais donné au chapitre 48 la semaine dernière, c'était tout simplement le triple bilan de fin de vie de Jacob. Et il y avait, je voyais dans le texte une division de trois genres de bilan de vie qu'il fait. Il fait un bilan de vie de son pèlerinage. Donc, il fait le bilan de Jacob comme pèlerin. Autrement dit, quand on est en pèlerinage, on voyage avec un bâton et on n'est pas là pour s'installer sur la terre, on est là, on voyage vers une destination bien précise. Dans notre cas, on le sait, on est en pèlerinage, on se dirige vers le ciel et on est des pèlerins nous aussi, au même titre que Jacob. Alors Jacob, dans les sept premiers versets, on les avait étudiés la semaine dernière, c'était la partie où il raconte un peu sa vie, où il rappelle que Dieu avait été avec lui tout le temps, que Dieu lui était apparu, que Dieu lui avait parlé, que Dieu lui avait fait des promesses. Alors, il raconte que son pèlerinage a été souffrant pour les différents. Parce que quand on regarde la vie de Jacob, on l'a tout étudié au cours des dernières semaines, on sait que Jacob avait beaucoup de défauts. Ça nous rappelle-tu quelque chose, ça? Nous aussi, on est plein de défauts. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il nous laisse avec nos défauts, là, qu'il nous a trouvés quand on était... Non. Le Seigneur, il nous corrige, il nous apprend des choses, il nous apprend comment adorer, comment prier, comment de plus en plus dépendre de lui, et il corrige nos défauts. Et un des défauts que Jacob avait, qui était un petit peu manigancieux, on pourrait dire, et il était trompeur, donc son nom même veut dire trompeur, alors que par Dieu a fallu que durant tout le temps qu'il est allé chez Laban, il a rencontré chaussure à son pied. Parce que Laban, il était encore plus trompeur que lui. Et là, il a appris qu'est-ce que c'était les souffrances qui sont reliées à être trompé. Il n'a pas été trompé à peu près, là. Il aimait sa femme et son beau-père lui passe Léa à la place de Rachel. Alors, et ça lui a coûté 7 ans de sa vie. Et il est resté là 20 ans. Et lorsqu'il a voulu sortir, parce qu'il reconnaissait que son beau-père n'arrêtait pas de le tromper. Lorsqu'il a voulu sortir, c'est sûr que son beau-père s'est mis à courir après lui. Donc, il y a eu beaucoup de souffrances dans sa vie. Et tout ce temps-là, le Seigneur est en train de travailler son caractère, est en train de travailler sa vie, est en train de lui apprendre des choses. Moi, ce que je trouve, que des fois, on lit la Bible, on lit des passages comme Joseph, Jacob, Abraham, peu importe. Et on ne médite pas assez. On lit l'histoire, mais on ne médite pas assez sur les liens qu'on se doit de faire entre le texte et les leçons que le Seigneur veut montrer et notre vie quotidienne de tous les jours. Et c'est là qu'on a besoin de méditer la parole. La parole, c'est pas faite juste pour être entendue, c'est faite pour être appliquée, comprise et appliquée dans notre vie de tous les jours. Alors, on avait vu que l'histoire de son fils, il était sûr que Joseph était décédé. Les 17 dernières années de sa vie ont été bénies, parce que c'est à l'âge de 130 ans que les circonstances providentielles de Dieu ont permis que Jacob retrouve son fils en étant, il était comme dirigeant, il était rendu dirigeant après Pharaon dans le pays d'Égypte, et c'est lui qui a empêché la nation naissante d'Israël de crever de faim parce qu'il y avait une énorme famine. Ce n'était pas une famine ordinaire. C'est une famine qui a duré. Si son fils, que lui croyait mort, n'avait pas été élevé à la dignité d'être de celui qui était en charge de toute la du blé d'Égypte, ça rapporte. Mais on voit la main de Dieu dans rien de ça. Alors, c'est très intéressant de voir ça. Donc, les défauts notoires que Jacob avait, il y avait la tromperie et il y avait le mensonge. Vous souvenez-vous de l'histoire d'Ésaü, Jacob? Alors, il était menteur et il s'était mis du poil pour faire coller à son père pour recevoir la bénédiction. Alors, non, il était trompeur, il était menteur, porté à la manigance. Il jouait toujours des jeux de stratagème. Il pensait, comme par exemple, quand il y a eu que Dieu a permis que les troupeaux de brebis croissent, lui, il croyait que c'était « Ah, c'est parce que j'ai enlevé les bouts des branches et c'est pour ça que les brebis donnaient des tachetés et tout ça. » Un peu plus loin, le Seigneur lui fait comprendre « C'est pas ta petite manigance qui a fait en sorte que le troupeau, c'est à cause de ma bénédiction. » Alors, il était porté à la manigance. Dieu lui a montré que, dans le fond, les bénédictions qu'il recevait, c'est pas à cause de ses petites manigances. Et il avait tendance aussi à se confier en ses propres forces. N'est-ce pas que ça ressemble un petit peu à nous autres? On a tendance à se fier à nos propres forces. À plusieurs reprises, il a manqué de foi et il y a eu de l'idolâtrie parce que quand Rachel a quitté, elle a volé les téraphimes à son père, les a emmenés avec lui, mais ça a fait en sorte que, dans le fond, il y a de l'idolâtrie qui s'est installée dans la famille. Et on sait qu'un petit peu plus tard, il les a enterrés. Pourquoi il les a enterrés? Parce qu'il se rendait compte que là, il fallait qu'il se débarrasse de ça. Alors, quand tu regardes l'ensemble des défauts et des péchés qu'il y avait dans sa vie, puis qu'on regarde les péchés que nous, on a dans nos vies de nos jours, moi, je trouve que c'est vraiment très similaire. Avant d'être sauvé, même après d'être sauvé, le mensonge, il faut y faire attention, hein? Mais avant d'être sauvé, on ment comme on respire, comme on dit. Mais Dieu ne nous laisse pas dans notre état de pécheur encrouté qui va de pire en pire. Lui, il fait exactement l'inverse. Il nous enlève l'habitude du péché. Le péché devient nous maîtrise moins, nous submerge moins, nous contrôle moins. Et ça, c'est le travail de toute une vie. Depuis qu'on est chrétien, quand on regarde, nous, ça fait 40 ans. Alors, dans 40 ans, le Seigneur en a corrigé plein de choses en moi. Et il est loin d'avoir fini. Je ne sais pas si vous autres, il a fini, là, mais moi, dans mon cas, il n'a pas fini. Et c'est le travail de toute une vie. Normalement, ce qui est intéressant dans l'histoire qu'on est en train de regarder, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le fait que le Seigneur, l'Esprit de Dieu, utilise à la fois le nom de Jacob et à la fois le nom d'Israël. Et des fois, on ne porte pas attention au fait que l'Esprit de Dieu change. Et quand on regarde le contexte, quand Dieu utilise Jacob, c'est pour une raison, puis quand il utilise Israël, c'est pour une autre raison. Pourquoi quand est-ce qu'il avait baptisé Israël? Quand il avait eu le combat avec l'ange et que la voiture de l'ange avait été... C'est très significatif. Autrement dit, lorsque Dieu commence à te contrôler, c'est là qu'il a donné le nom d'Israël. Et très intéressant de se souvenir de ces choses-là. Alors, sa vie avait été parsemée d'expériences douloureuses et amères. Le fait de son conflit avec son frère, le fait de devoir s'expatrier pour sauver sa vie, parce que son frère y en voulait pour le tuer. Ensuite, d'avoir été exploité et trompé par son beau-père Laban. Ensuite, il était obligé de fuir de chez Laban, parce que Laban, il ne l'aurait jamais laissé partir avec ce qui appartenait. Laban, il avait tendance à être... Alors, si Jacob avait tendance à la manigance, il avait rencontré vraiment un maître dans la personne. Et il avait eu dans sa vie la supposée mort de Joseph, qui pour lui l'avait littéralement tué. C'était un homme que ses fils, quand ils ont annoncé au père, avec la tunique trempée dans le sang, que Joseph était décédé, pour le père, ils l'ont comme assommé. puis il est resté dans un état assommé comme ça. Alors, eux, leur punition que Dieu permettait, c'est que durant toutes ces années-là, ils voyaient leur père qui s'en remettait pas. Quand tu fais quelque chose, tu dis « Ah, OK, on va faire ça. Oh, mais le père va s'en remettre. C'est une couple d'années. Il pensera même plus. » Ça n'a pas été le cas. Il a vraiment, ça y est resté, ça l'a marqué durant toute sa vie. Ensuite, il y a eu la grande famine et il y a eu la mort de son épouse. Alors, il y a eu beaucoup d'afflictions dans sa vie. Et nous, comme chrétiens, aujourd'hui, il ne faut pas se surprendre si on a des afflictions dans nos vies, parce qu'elles sont décrétées de Dieu pour qu'elles nous arrivent, parce qu'elles changent des choses en nous et qu'elles nous transforment et nous corrigent de certains défauts qu'on a et nous apprennent aussi des fois à utiliser la prière et à adorer mieux et ces choses-là. Donc Dieu est une personne qui nous, un peu comme on éduque nos enfants, le Seigneur éduque les siens ici, puis les enfants de Dieu, c'est nous. Alors, il nous éduque, puis il nous transforme, puis il nous change, puis il nous envoie des afflictions, justement dans le but de changer les choses. On avait regardé la semaine dernière le bilan de Jacob, le pèlerin. On va juste reviser très, très rapidement ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, il rappelle, dans les 7 premiers versets, il rappelle que Dieu l'a assisté durant tout son séjour. Il était là au-dessus de 20 ans, mais il se rappelle que Dieu a été l'a assisté durant toutes ses difficultés. Ensuite, dans versets 5 et 6, il rappelle aussi qu'il a été éclairé sur la bénédiction du droit d'aînesse. Parce que dans les versets 5 et 6, des fois on ne porte pas attention, c'est dit qu'il va prendre les deux fils qui sont nés de Joseph en Égypte, pour remplacer deux personnages qui sont les fils de... Et il dit Ruben et Siméon. Pourquoi Ruben avait perdu son droit d'aînesse? Parce qu'il avait couché avec la femme de son père. Pourquoi Siméon avait perdu son droit? Lui, normalement, s'il y en a un qui le perdait, c'était l'autre qui suivait, qui l'avait. Siméon l'avait perdu aussi. Pourquoi? Parce que dans l'histoire de Léa, pas de Léa, mais dans l'histoire de Dina, quand elle avait été pour visiter les gens du pays, Siméon avait été à la tête de ceux qui avaient voulu profiter de la situation et tuer les gens. Et pourquoi il nomme les deux noms? Ce qu'on ne fait pas le lien souvent, c'est qu'on dit pourquoi il marque Ruben et Siméon? Il aurait pu nommer bien des noms dans les... Il marque Ruben et Siméon justement pour dire « Je prends les deux fils qui te sont nés en Égypte pour remplacer les deux qui ont perdu leur droit d'aînesse à cause de leur péché. » C'est comme un remplacement. Très intéressant. Et verset 7, il nous rappelle qu'il était un homme éprouvé. C'est sûr, tout à l'heure, on a fait toute une liste de choses que Dieu a permis qu'il arrive dans sa vie dans le but de corriger des défauts, dans le but de lui apprendre aussi le rôle de la prière dans la vie du croyant, le rôle de l'adoration, parce que chaque fois que Dieu le corrigeait de quelque chose, après, il avait la réaction d'adorer. Il bâtissait des autels, puis là, il se mettait à adorer. Alors, Dieu se sert de tout l'ensemble des choses qui nous arrivent dans nos vies pour nous montrer, justement, à dépendre de lui, à lui faire confiance et à nous corriger de nos défauts. Et c'est ça, il rappelle qu'il a perdu sa femme. Et ce qui est intéressant aussi, c'est l'endroit où il rappelle qu'il a perdu sa femme, Ephrata, Bethléem. Bethléem, et toi, Bethléem, Ephrata, toi qui es la plus petite d'entre les... T'sais, il est en train de ramener l'histoire du Christ à l'intérieur de tout cela. Quand on y va trop vite, on ne le remarque pas. OK, on était rendu là. Attends, le bilan maintenant de Jacob, le pèlerin, donc il a fait un petit peu le bilan de sa vie comme pèlerin sur la terre depuis qu'il a quitté son père, depuis même sa naissance, à aller jusqu'à aujourd'hui. Là, il est rendu sur son lit de mort. C'est intéressant de regarder les paroles d'un homme juste avant qu'il meure. Parce que c'est là que tes valeurs réelles sont exprimées. Et là, c'est ça qu'on est en train d'assister. Il y a des choses importantes qui vont se réaliser. Donc, il parle de son pèlerinage. Ensuite, on va voir que le bilan, il fait un bilan, mais comme patriarche. C'est intéressant parce que le mot patriarche, on ne prend pas la peine d'ouvrir un dictionnaire biblique puis de regarder ce que ça veut dire. Des fois, on manque le bateau un petit peu. Le dictionnaire biblique définit le patriarche comme étant le titre conféré aux hommes pieux et aux chefs de famille dont l'Ancien Testament rapporte la biographie et qui ont vécu avant Moïse. Donc, Abraham, Isaac, Jacob et jusqu'à Moïse. Sous le régime patriarcal, on l'appelait ça le régime patriarcal, le commandement du clan appartenait de droit à son fondateur et il était transmissible par droit d'aînesse. C'est toujours le plus vieux, le père donnait ça à son plus vieux. Mais quand on a étudié le droit d'aînesse, souvent on oublie toutes les caractéristiques et toutes les bénédictions qui étaient rattachées au droit d'aînesse. Une qui n'était pas la plus petite, c'était le fait que tu devenais dans la lignée messianique. Abraham, Isaac, Jacob, et tout jusqu'à l'arrivée du Christ. Tu devenais un maillon dans la chaîne de la venue future du Christ. C'était pas un petit privilège, c'était un énorme privilège. Tu avais aussi une double bénédiction qui était rattachée à ça. Et plein d'autres bénédictions, on reprendra pas ça ce matin, là. Mais c'était mépriser le droit d'aînesse, comme Ésaü a fait. C'est terrible. Soit le mépriser, ou soit le perdre à cause de ton péché. Ruben, normalement, il aurait dû profiter du droit d'aînesse, il l'a perdu. Siméon l'a perdu. Et ici, on est en train de voir que Jacob essaye de... Il donne les deux à ses deux fils qui sont nés en Égypte, il leur donne... Ils vont un peu remplacer Ruben. Ils ne les remplaceront pas parce que les autres, ils vont rester les enfants. Ils vont rester dans le domaine des patriarches. Mais il est en train de dire que, dans le fond, ces deux-là, ils ont perdu, à cause de leur péché, les privilèges qui s'attachent à ça. Si on va dans Actes 7, versets 6 à 8, on apprend quelque chose sur l'aspect patriarche. Ça dit, « Et Dieu parla ainsi, « Ta postérité habitera dans une terre étrangère pendant 400 ans, et on la réduira en servitude, et on la maltraitera. Mais je jugerai la nation à laquelle ils auront été asservis, dit le Seigneur. Et après cela, ils sortiront et me serviront dans ce lieu. Puis, il lui donna l'alliance de la circoncision. Et ainsi, Abraham engendra Isaac, qu'il circoncit le huitième jour. Et Isaac eut Jacob et Jacob, les 12 patriarches. » Voyez-vous, les patriarches, là, c'est dans les Écritures, ça a une importance très particulière. Le régime patriarcal a précédé la théocratie. La théocratie, alors comme théocratie, autrement dit, le gouvernement des choses par Dieu lui-même. Avant que la théocratie arrive, il y avait le patriarcat. Donc, c'était les patriarches qui transmettaient les promesses de Dieu et ces choses-là. Donc, le régime patriarcal a précédé l'établissement de la théocratie qui a été promulguée où? Au Sinaï. Sous ce régime-là patriarcal, chaque chef de famille exerçait les fonctions de sacrificateur, qui était important, là, sacrificateur, et deuxième chose, Dieu se révélait au chef de famille. Quelqu'un qui méprisait ça, c'était comme si tu disais à Dieu, tes révélations, moi je ne tiens pas plus que ça. C'était grave, à quelque part. Alors, l'alliance avait d'abord été donnée à Abraham, puis transmise à Isaac. Là, on est rendu à Jacob. Jacob est sur le bord de crever. Alors, quand il est sur le bord de crever, il faut que tu transmettes ce qui t'appartient et qu'il revient de droit à celui qui en a gardé la capacité de l'exercer. Donc, là, les versets 8 à 12, on voit que Jacob veut transmettre l'alliance divine. Très intéressant. Qu'est-ce que Dieu avait donné à Abraham comme promesse? Il avait donné plusieurs choses. Premièrement, il avait dit qu'il y aurait un pays. Ensuite, il lui avait parlé de la semence. La semence, c'est de qui à qui on faisait référence quand on parle de la semence? Ta semence, c'était Christ. Donc, le Messie va venir par ta lignée. Ensuite, il lui avait dit qu'il deviendrait une source de bénédiction. Qu'il deviendrait une grande nation. Et il lui avait dit aussi comme promesse que toutes les familles de la terre seraient bénies en lui. Si on est ici ce matin, là, c'est à cause de ces promesses-là qui sont... C'est ça. Toutes les familles de la terre seront bénies. Et ces promesses-là de l'Alliance divine étaient transmissibles de génération à génération. Et la logique serait due à être au plus vieux, l'aîné. C'est intéressant de regarder comment Dieu passe par-dessus les règles humaines. Tu sais, Ésaü est né le premier, puis Dieu a dit c'est Jacob qui va. Et là, ici, on est en train d'assister à la même chose. Il va bénir les deux fils de Joseph et il va mettre ses mains croisées volontairement. Il va dire c'est le plus jeune qui va être le plus grand, puis le plus vieux. Il aurait dû être le plus grand, mais Dieu décide. Comment ça, il savait ça, lui? Bien, on vient de dire que celui qui avait les promesses de Dieu avait des révélations de Dieu. Dieu lui montrait que ces choses-là arriveraient. Alors, ici, Jacob, il veut honorer Joseph en adoptant ses deux fils qui sont nés en Égypte pour leur faire profiter des bénéfices de l'Alliance. Parce que ce n'étaient pas des Juifs purs, là. C'était des Juifs mélangés, parce que Joseph avait marié une Égyptienne, et les deux fils n'étaient pas des Juifs. On voit ici la main de Jacob de vouloir les ramener dans le giron des promesses messianiques. Les yeux de Jacob étaient très affaiblis, on dit. Très affaiblis, ça veut dire qu'il voyait presque plus clair. Alors, il fait avancer ses deux fils, puis là, normalement, il aurait dû mettre sa main sur le plus vieux, puis mettre l'autre main, la gauche, et il fait l'inverse. Il fait avancer les deux fils, et il met ses mains en croix. Moi, l'auteur qui m'a fait réfléchir, là, il dit, pense au fait, la croix. Si, j'ai trouvé ça tellement beau, hein? Il a mis les mains sur la tête du plus jeune, en disant, c'est lui qui va être le plus fort, non pas le plus vieux. Et en faisant ça, il se mettait les mains en croix. J'ai trouvé ça tellement brillant, le fait de penser que ça faisait une croix, que quelque part, ça rappelait la souveraineté de Dieu dans le salut. Très intéressant. Donc, ça rappelle que les yeux physiques de Jacob étaient très affaiblis, mais non pas ses yeux spirituels. Quand que Joseph lui a dit, « Non, non, papa, c'est pas comme ça. Il faut que tu mettes ta main sur la tête du plus vieux. » Son père, lui, il voyait plus clair. Son père, il a dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. » Il l'a fait intentionnellement. Donc, Dieu avait communiqué la nouvelle que c'est ça qu'il voulait, et lui est en train de la transmettre. C'était très... Alors, Jacob, il est maintenant devenu un chrétien... très mature. Quand on regarde sa vie au début, il était loin d'être mature. Maintenant, il a une foi qui est inébranlable et il a une perception claire des décisions divines. C'est le plus jeune qui va être plus grand que le plus vieux, non pas l'inverse. Le Seigneur, dans sa souveraineté, joue comme il le désire avec le droit d'aînesse. Plus jeune, plus vieux, c'est sa décision. Il est en train de transmettre... Alors, le patriarche est aussi transmetteur du décret, mais vraiment un décret souverain. Le fait qu'il ait mis ses mains comme ça, tu sais, dans le fond, tu penses à ça, tu te dis, il voyait pas. Il savait qu'il y avait deux fils là, mais comment il pouvait mettre la main sur le plus jeune alors qu'il aurait dû la mettre sur le plus vieux? Comment pouvait-il savoir ça? Si ce n'est pas par communication divine, par élimination du Saint-Esprit, que Dieu voulait que c'est ça qui arrive. Alors, c'était une transmission, comme on lit dans le verset 13 et 14, délibérée et lucide. Quand il lui a dit, non, papa, tu t'es trompé, il a dû dire, le père ne voit pas de l'air, là, on va être obligé d'y montrer. Le père, il a dit, non, je ne me trompe pas. C'est ça qui va arriver. Donc, c'est une décision souveraine du Seigneur qui se transmettait par son instrumentalité, qu'on pourrait dire. Et c'était aussi une bénédiction qui est systématique quand on lit les versets 15 à 19. Il commence par bénir. Si vous regardez, si vous prendriez le texte, à matin, je l'ai relu avant de venir, et je me suis dit, il faudrait que je compte le nombre de fois que soit béni, soit bénédiction, ou soit je bénirai, juste dans le chapitre 48. Je serais curieux de le faire, là, pour savoir combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Ça parle beaucoup de bénédiction dans ce chapitre-là. Alors, il commence d'abord par bénir Joseph lui-même, et il va profiter des bénédictions de l'Alliance. Il va avoir l'Éternel lui-même comme berger. Quelle bénédiction! Tu sais, dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger. On est des brebis. On peut-tu être mieux guidé que par le Seigneur pour s'occuper de tous nos besoins? Direction, nourriture, soins si on est malade, etc. Et il lui dit aussi qu'il va profiter de la protection divine. Dieu va le bénir et qu'il va multiplier, quand il dit « je te rendrai nombreux », donc il va multiplier la descendance à la fois physique et spirituelle. Et c'est une bénédiction qui fait exprès pour prendre le plus jeune et il le fait de façon pleinement consciente. C'est vraiment à remarquer. Et dans le verset 19, il lui dit aussi que à l'intérieur, la postérité va être bénie. Donc, à quelque part, on voit la continuité, la main de Dieu dans la continuité de la promesse messianique. Très intéressant. Ce qu'on ne fait pas souvent, c'est que quand on va plus loin un petit peu dans la Bible et qu'on rencontre le nom d'Éphraïm, on voit que ce que Dieu est en train de faire, ça va se refléter dans l'histoire. Comme par exemple, quand il y a eu, c'est demeuré de même jusqu'à l'époque des juges, mais quand il y a eu le fameux schisme, ça a été la séparation des tribus du nord avec celles du sud, celles du sud, Juda et Benjamin, et les 10 tribus du nord, ils les appelaient comment? Les tribus d'Éphraïm. Alors on voit très bien comment tout ça finit par se réaliser dans l'histoire d'Israël. Et dans le verset 20, il lui dit, « Et en ce jour-là, il les bénit et dit, « Israël bénira par toi en disant, « Dieu te rende tel qu'Éphraïm est Manassé. » Il mit donc Éphraïm avant Manassé. » Très intéressant. Que Dieu prenne le nom des deux jeunes qui sont réintégrés dans Israël, qui étaient des mélangés, on pourrait dire, d'un père juif et d'une mère égyptienne. Il les réintègre dans la nation d'Israël. Très intéressant. Et il leur dit non seulement ça, mais que leur nom va devenir la source. Il dit, les gens vont se bénir maintenant en disant, comme ça dit, Dieu te rende tel qu'Éphraïm et Manassé. Puis, ça dit, la dernière partie du verset 20, il mit donc Éphraïm avant Manassé. Le droit souverain de Dieu, de dire quel qui sera le plus grand, quel qui sera le plus grand. La même chose qu'Ésaü et Jacob, quand on lit dans Romains 9, il dit, j'ai haï Ésaü, j'ai aimé Jacob, le choix souverain de Dieu. Les deux derniers versets, c'est les versets 21 et 22. Et Israël dit à Joseph, « Voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous, et il vous fera remonter au pays de vos pères. » Chose qu'on ne remarque pas, c'est que normalement, il était au courant que la nation d'Israël demeurerait en Égypte maltraitée pendant 400 ans. Il ne mentionne même pas. Et il leur dit, il veut juste les rassurer sur la destination finale, non pas sur ce qu'ils vont vivre en attendant. Parce qu'il leur dit, « Voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous. Et il vous fera retourner au pays de vos pères. » Il dit pas, « Ouais, mais ça va être long. Pendant 400 ans, on va vous exploiter. On va vous faire souffrir, puis etc., etc. » Il veut que Joseph garde les yeux sur la destination finale et la confiance qu'il se doit de conserver au Seigneur pour l'amener à l'endroit. Et la verset 22, celle-là, on ne se pose pas la question, bien souvent, on la lit tellement rapidement, on ne se pose même pas la question. Ça dit, « Et je te donne une portion de plus qu'à tes frères, celle que j'ai prise de la main de l'Amoréen avec mon épée et mon arc. » Quand tu lis les commentateurs sur ce passage-là, ils disent, il n'y a aucun endroit dans les Écritures où on nous parle que Jacob s'est battu avec les Amoréens avec son épée et son arc. Fait que là, tu te dis, fort probablement, un peu comme dans l'Évangile de Jean, il dit que toutes les choses que Jésus a faites, il ne les a pas nécessairement écrites. Mais c'est la même chose pour Jacob. Toutes les choses qu'il a vécues dans sa vie, il ne les a pas nécessairement racontées dans les Écritures. Mais ici, il nous raconte un fait qu'on n'a pas de description à aucun endroit dans les Écritures que Jacob a fait ça. Et il dit, « Quand je me suis battu avec les Amoréens, que j'ai gagné, ce que j'ai gagné avec mon épée et mon arc, je te le donne une portion de plus qu'à tes frères. » C'est qui avait des portions de plus qu'à les frères? Celui qui avait le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse avait des portions de plus qu'à ses frères. Il le donne à Joseph. Ça, c'est intéressant aussi. Donc, dans le verset 21, le Seigneur donne à Jacob une vision spirituelle pénétrante dans le sens que il voit l'avenir et il dit, il mentionne même pas les 400 ans qui vont être là. Fie-toi sur la parole que Dieu a dit, qui vous ramènerait dans votre pays après 400 ans. C'est beau, hein? Il est en train de mourir, puis il n'est pas en train de dire, « Ouais, mais là, habitue tes enfants, vous allez avoir du trouble, vous allez avoir... » Pas un seul mot. La seule chose qui lui rappelle, Dieu est fidèle. Dieu a promis qu'il vous ferait sortir d'Égypte, et il va le faire. Il est en train de vouloir laisser cette dernière parole-là dans la tête de Joseph. Alors, il ne fixe pas l'attention de Joseph sur les 400 années d'esclavage, mais il veut que Joseph dirige les regards vers la terre promise. Et il exprime à Jacob le fait qu'il est très optimiste concernant le fait que que Dieu va les accompagner, bien sûr Jésus est inclus, là, mais Dieu va les accompagner au cours de toute leur séjour. Il va les accompagner durant toutes ces 400 ans-là. Et on voit aussi la question de prophétie dans le verset 22. L'évocation du pays de la promesse donne l'occasion à Jacob d'insister de nouveau sur la double portion du territoire qui reviendra à Joseph en raison de son adoption d'Éphraïm et de Manassé. Il y a trois choses. Parce que si on étudie un texte comme celui, comme Genèse 48, bien sûr que prendre un chapitre complet, c'est beaucoup pour exposer, mais il reste qu'on a décidé de le faire comme ça. Moi, je vois les trois divisions que je vois dans le texte, il y a des applications pratiques, il y a des choses qu'on se doit d'apprendre comme principe dans le but de les mettre en application dans notre vie de tous les jours. Comme Jacob, nous aussi, on est des pèlerins et des voyageurs sur cette terre. Dieu se sert de notre séjour terrestre et temporel, pendant qu'on est ici, pour faire la même chose qu'il a faite avec Jacob. Nous corriger. Il y a-tu des choses à corriger en nous? Quand on fait un inventaire, quand on vieillit à la foi, on apprend un petit peu à se connaître, on apprend un petit peu à connaître tout l'ensemble des défauts qui nous dominent, mais que le Seigneur, tranquillement, va nous travailler pour en éliminer le plus possible, et il va le faire toute ta vie. Et il veut te corriger, il veut te transformer, et il veut te préparer pour entrer dans le ciel. Parce que pour rentrer dans le ciel, ça prend une certaine disposition d'esprit qui va prendre toute ta vie terrestre pour te préparer. Donc, attendons-nous, un peu comme Jacob a eu, à des afflictions, à des bénédictions, parce que Jacob n'a pas eu juste des afflictions, il a eu des bénédictions. Et attendons-nous aussi à un processus d'apprentissage de ce que Dieu veut qu'on apprenne. La prière, la soumission à la parole de Dieu, la dépendance envers Dieu, la confiance en Dieu, la sanctification, parce que si on regarde la vie de Jacob juste sous l'angle de la sanctification, il y aurait beaucoup à dire. Ensuite, à l'adoration authentique, parce que chaque fois que Dieu lui montrait quelque chose, il terminait tout le temps en élevant un autel et en adorant. Donc, Dieu fait la même chose avec nous, mais pas nécessairement de la même manière, avec les mêmes circonstances, mais il fait exactement la même chose. La deuxième application, le patriarche Jacob a beaucoup à nous apprendre. Sa foi inébranlable aux promesses de l'Alliance. Il faudrait les reprendre une par une. Quand Dieu fait, il dit toutes les familles de la terre seront bénies. On les bénit parce que si la promesse ne serait pas réalisée, on ne serait pas ici. Alors, la foi inébranlable aux promesses, la victoire dans l'épreuve. Dieu veut nous montrer que quand tu regardes la vie des patriarches, ils ont toutes été sévèrement éprouvés, puis en sont toutes sortis victorieux. Donc, le Seigneur veut nous apprendre aussi la victoire dans l'épreuve. Il veut nous apprendre aussi l'immuabilité des décisions divines et de ses décrets. Quand il a dit, c'est Jacob qui va être l'élu, qui profite de l'élection divine, et pas Ésaü. Et ici, tu es en train de faire un peu l'équivalent, mais pas en termes de destinée éternelle, en termes de que le plus jeune va être plus grand que le plus vieux. Donc, les décisions immuables des décrets de Dieu dans nos vies. Aussi, l'absolue certitude de la pérennité de la grâce souveraine de Dieu. J'aime beaucoup le mot pérennité, mais souvent, on ne prend pas la peine d'aller. Je l'ai utilisé volontairement. La pérennité de quelque chose, c'est quelque chose qui dure à travers le temps et les époques. Dieu nous a sauvés souverainement, et il va nous prendre du point de départ, même avant, parce qu'il dit de toute éternité, avant notre vie, qu'on soit sauvés, et après qu'on est sauvés, il va nous prendre de ce point-là, et il va nous rendre jusqu'au bout. Mais entre-temps, on va en vivre des choses qui font faire bobo. Pourquoi ça fait bobo? Parce que, bien souvent, c'est des péchés qui nous corrigent. Ça fait mal. Alors, il va nous montrer la pérennité, donc le fait que Dieu a promis quelque chose et qu'il va se rendre jusqu'au bout. Et la dernière chose, on voit les leçons qu'on peut apprendre de Jacob le prophète, qui nous éduque en nous montrant que Dieu nous donne des yeux capable de demeurer fixé sur lui et sur la destination finale, car les prophéties de Dieu sont certaines. C'est très intéressant, ça. Il ne voyait rien, mais il voyait la destination finale. Très, très intéressant. Alors, que l'Éternel soit loué, béni et adoré pour sa lumière, sa direction et ses riches bénédictions. Amen. Amen.